Voici Robert Pilote.
Lundi 11h pile, bonjour, bonjour et bienvenue. Votre rendez-vous quotidien d'affaires publiques régionales. Oui, on vous parle de ce qui se passe chez nous, mais on n'est pas refermé sur nous autres même, là. On explore le monde entier grâce à des tentacules, des êtres tentaculaires tels Serge Allary.
Bonjour.
Allô?
Salut.
Heureux de te savoir là.
Pareillement pour moi.
Autre tentacule de cette émission à la salle de nouvelles, celui qui a une mainmise sur ce bas monde. Alexis Sanson, bonjour.
Salut Robert Pilote.
Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que ce sera une semaine un petit peu plus calme que la semaine dernière. Ça a comme, on est en congé, de toute façon, lundi de la semaine dernière. Ben après ça, ça a comme déboulé jusqu'à vendredi. Et j'ai eu peine de la fin de semaine pour me remettre de toutes ces émotions que l'on a vécues la semaine dernière.
Seulement 4 jours et pourtant.
J'étais tellement essoufflé que je n'ai même pas pu savourer cette victoire extraordinaire du Canadien face à un prétendant de la Coupe Stanley, le Pingouin de Pittsburgh.
C'est deux fois, là, deux en deux, le Canadien contre les Pingouins là, à Pittsburgh et cette fois-ci à Montréal.
Et c'était très beau à voir. Donc, nous y reviendrons plus tard dans l'émission aujourd'hui. Pourquoi la semaine dernière ça a été si essoufflant? Meurtre autour de ce qui s'est passé à Yamaché. Puis là, ça a déboulé les informations les unes après les autres. J'y vois un peu plus clair aujourd'hui. On va y revenir, puis en même temps où on vous parlait du meurtre de Yamachiche, la découverte de ces deux cadavres dans ce véhicule, c'est l'histoire de Jonathan Bété qui nous a pété en pleine face également vendredi. Et ça aussi, il fallait digérer tout ça, tenter de comprendre ce qui se passait, les impacts, les conséquences pour le réseau de la justice, mais pour Jonathan Bété à proprement parler.
Parce qu'aujourd'hui, il est libre comme l'air.
Ben, il était libre aussi.
Mais il n'y a aucune accusation qui pèse contre lui en ce moment-là. Rien du tout.
Absolument. Bon, alors, tu sais, ce qu'il y a de délicat dans l'histoire de Jonathan Bété aujourd'hui, c'est que la police s'est plantée et pas à peu près. C'est ce que le juge...
Expédition de pêche. De c'est pêche. Comme ça que le juge l'a qualifié.
Donc, tu sais, Jonathan Bété, je reviens là-dessus, je vous le disais vendredi, l'entreprise a été vendue, il n'y a pas de job, sa réputation a été quand même passablement malmenée. Là, il se passe quoi, là? Il arrive quoi dans son cas à lui?
Poursuite. Il y a des avocats, des spécialistes qui disaient que... des spécialistes disaient si j'étais l'avocat de Jonathan Bété, je lui dirais... Réfléchis-y,
il y a de la prise.
Parce que t'as une cause.
Il y a de la
contre
prise.
Le DPCP,
oui.
Contre les policiers, il y a quelque chose là. Et c'est aussi l'autre chose, Robert, puis on en a glissé un mot vendredi, mais c'est le fameux portrait de lui qu'on a fait comme étant le suspect numéro un de l'histoire de Cédric Provencher.
Je vais vous proposer quelque chose. Ça va se passer un peu après midi aujourd'hui. Moi, je suis Jonathan Bété. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je poursuis? Ça, c'est une chose. Pour tenter d'obtenir réparation, parce que s'il y a eu un préjudice, il y a une réparation éventuelle à obtenir. C'est la première affaire. Deuxième affaire, si je veux tourner la page une fois pour toutes, est-ce que je vais subir le détecteur de mensonges, le polygraphe?
Le polygraphe, hein?
Est-ce qu'il a quelque chose à gagner, selon toi, à le faire?
Bien, on va parler à un expert tantôt. Moi, je pense que oui. Parce que celui qui refuse de passer le test du polygraphe, et tout de suite soupçonné de quelque chose.
C'est que tu as toujours des doutes.
Il veut pas,
hein?
Ben oui, il veut pas passer le polygraphe. Fait qu'on doit probablement avoir quelque chose sur lui, puis c'est pour ça qu'il veut pas se vendre, puis il va l'échouer. S'il allait passer le test du polygraphe, OK, de façon publique, en disant, et je m'engage à rendre le résultat public, probablement que dans son cas, il pourrait obtenir une espèce de, comment je pourrais dire... assouplissement de la position publique face à son intervention possible dans le dossier de Cédric Provencher. Et, tu sais, je dis pas complètement, il en restera toujours quelque chose, hein. Dites ce que vous pensez, il en restera toujours quelque chose à la fin. Mais moi, je pense que l'avenue devant lui, ce serait peut-être ça.
Tu penses que s'il réussissait dans la perception du public, ça aiderait sa position? Tu penses qu'on le percevrait mieux s'il réussissait le test du polygraphe, Jonathan Bété?
Peut-être.
Je sais pas.
Peut-être.
Je pense qu'il y a des irréductibles qui vont toujours vouloir continuer à y croire parce que c'est la seule personne qu'on a réussi. Tu sais, il y a un désir de vengeance
puis,
aussi.
Puis la question qu'on se poserait, pourquoi qu'il ne s'est pas soumis avant ça, justement, au polygraphe?
Pour toutes sortes de raisons. Il y a plusieurs avocats qui se sont impliqués dans son dossier. Puis peut-être les avocats, ils disaient, va pas là. Mm-hmm. C'est la folie furieuse. Si jamais, pour toutes sortes de raisons, tu l'échoues, parce que c'est pas infaillible. Mm-hmm. D'abord, il faut le dire, le détecteur de mensonges, là, tu peux pas amener ça comme preuve devant un tribunal.
C'est pas recevable.
C'est pas recevable. Puis, c'est pas sûr à 100% cette histoire-là. Non. Hein, je pense qu'au plan scientifique, ils ne peuvent pas dire, hors de tout doute raisonnable, que le résultat est le reflet de la réalité puis de la vérité.
Ben, c'est pour ça que c'est pas recevable.
C'est pour ça. Donc, je vous invite à ne pas manquer ça entre midi et une heure aujourd'hui. On va bien sûr revenir dans l'actualité sur ce qui s'est passé la semaine dernière chez nous. Avec quoi tu veux commencer ton bulletin de nouvelles?
Ben, on peut parler de Jonathan Betté, tant qu'à continuer là-dessus, parce qu'il y a le chroniqueur judiciaire Claude Poirier qui... s'était beaucoup manifesté dans ce dossier-là. On l'a beaucoup entendu. Et lui croit que les policiers ont manqué à leur mission dans l'enquête sur Jonathan Betté. Et il n'a pas été surpris d'apprendre que Betté a été acquitté vendredi de toutes les accusations qui étaient portées contre lui en matière de pornographie juvénile. Et dans toute cette affaire, le juge Jacques Lacourcière ne s'est pas gêné pour blâmer le travail des policiers. Claude Poirier est aussi dur, lui aussi, envers les policiers.
Et tout le monde a leur mis au gaz. Parce qu'habituellement, dans une enquête comme ça, on demande le directeur des peines au pénal et criminel, qui représente le ministère de la Justice, aurait dû demander une ordonnance de non-publication, ce qui n'a pas été fait. Ce n'est pas surprenant de voir que le juge Lacourcière a été très dur envers le ministère de la Justice et la Sûreté du Québec.
Dans le dossier du meurtre de la jeune Ophélie Martin-Cyr, il y a les policiers qui travaillent toujours à identifier les deux corps dans la voiture qui était calcinée, là, qui était retrouvée mercredi dernier à Trois-Rivières. Puis selon ce que l'ex-sergent Jean-François Brochu a déclaré en onde à TVA, la Sûreté du Québec a sollicité les services d'une experte de Toronto afin d'identifier les restes des deux victimes. Les policiers de la SQ ont d'ailleurs perquisitionné la maison de René Kegle à Saint-Maurice samedi. Kegle et son présumé complice Francis Martel sont accusés de meurtre au premier degré d'Ophélie Martin-Cyr la semaine dernière à Yamachiche. Eux vont d'ailleurs revenir en cours le 23 novembre prochain. Mais pour ce qui est de l'identification des deux personnes là, les deux corps qui ont été retrouvés dans la voiture calcinée, pour ce qui est de l'une des deux personnes, semblerait qu'on sache pas mal c'est qui, puis son nom commence à circuler de plus en plus. Tout porte à croire que ce serait l'entrepreneur en construction Steve Lamy. Ce serait l'ex-beau-frère de René Kegg parce que ses proches sont sans nouvelles de lui depuis mercredi.
Vendredi.